Et oui, vous écoutez Graphite et nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite pour écouter Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je suis toujours essoufflé après Enrique. C'est pas sympa de me faire danser comme ça dans le studio avec ton vaccin anti-déprime là pendant une heure. C'est vraiment pas sympa, mais c'est pas grave. On va quand même continuer d'assurer, bien sûr, l'animation de cette émission sur l'antenne de Graphite 94.9 sur la bande FM. Pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, graphite.net, bien sûr, sur Internet en direct ou en différé grâce au podcast. Et aussi, grâce à Mathéo, nous avons le Facebook Live, la vidéo. C'est pour ça qu'on a des belles chemises et tout. On n'est jamais aussi bien habillé les samedis dans le studio. Depuis qu'on sait qu'on a la vidéo, maintenant on fait un minimum d'efforts pour vous et c'est tant mieux. Merci de nous écouter, merci de nous suivre en direct sur le Facebook, mais également sur tous les différents médias pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Nous sommes en mars, il y a déjà un an en fait, il y a même plus d'un an, on avait commencé à parler du coronavirus dans cette émission, c'était fin janvier avec Carole, fin janvier 2020. Il serait peut-être intéressant quand même de faire un peu le point et de s'arrêter un petit peu, de faire un rapide bilan, un rapide constat de ce qu'a pu quand même apporter la science depuis un an. Suite à cette pandémie, on a pu identifier le responsable, on a pu identifier son génome, on a pu identifier les gestes quand même assez basiques que l'on doit respecter pour éviter cette propagation. On a quand même créé, non pas un vaccin, mais des vaccins avec des technologies différentes. On les a créés en moins d'un an, en moins de 6 mois quand même. Et puis on en apprend tous les jours sur ce virus, on en apprend tous les jours sur son origine, sur sa contagiosité, sur son cycle de vie, sur comment on peut le combattre. On a identifié des variants, on est en train d'identifier des recombinants, bref. La science, je vous l'ai dit, elle doit prendre son temps. Mais enfin, quand même, franchement, là, elle a été quand même assez vite. Merci, la science. Merci à elle d'avoir pu quand même trouver des solutions assez rapidement. Et c'est tant mieux, il faut et on doit continuer à avoir confiance en elle. Je parle de la science, d'un science avec un grand S. Parce que franchement, il y a une espèce de cohorte de scientifiques, de professeurs, de médecins. Eux, ils sont contagieux, mais plutôt sur les plateaux de télévision. Et ça n'arrête pas de se contredire. Et ça n'arrête pas de donner des informations contradictoires. Comment on s'y retrouve? On n'en sait rien, c'est pas évident. Et quand je parlais tout à l'heure d'une façon un peu légère de tout ce qui est dépression ou autre, en fait, c'est pas léger, c'est un vrai constat que l'on a. On peine un petit peu à avoir une vision claire de cette situation parce qu'on entend tout et son contraire. Et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas, nous, citoyens lambda, à qui se fier. En fait, ce qu'il faut, c'est que chacun reste dans son rôle. C'est ça qu'il faut faire. Les politiques, les médias, les scientifiques et nous, les citoyens. Les politiques, ce qu'on attend d'eux, c'est de prendre des décisions, de pouvoir les expliquer. On comprend très bien en ce moment que nous sommes en manque de pédagogie. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire et ne pas faire en ce moment. On ne comprend pas trop ces règles. On parle de confinement dehors, ce qui est quelque part un peu une aberration. Donc, il faut expliquer, prendre des décisions, les expliquer et les appliquer également. Ce qu'on attend des médias, on ne leur demande pas de nous rassurer. Ce n'est pas leur rôle. On ne demande pas non plus de maintenir une espèce d'ambiance anxiogène, c'est pas leur rôle non plus. Ce qu'on demande aux médias, c'est de nous informer. Et on se rend compte de plus en plus que une grande catégorie des médias, et j'inclus les réseaux sociaux dedans également, n'arrive pas nécessairement à tenir ce rôle. Ressaisissez-vous et essayez de nous informer. Et puis, à nous, citoyens, ben en fait, c'est à nous, c'est ce que je vous ai dit en début d'année. Je nous ai souhaité une année pleine de bon sens. D'avoir du bon sens, de prendre du recul et d'essayer de définir notre avis à partir d'informations scientifiques de base. À nous de les interpréter, on est grand, on est responsable et donc on va être en mesure aussi de pouvoir s'approprier ces informations et de se forger notre propre avis. Chacun dans son rôle, chacun doit tenir son rôle et on pourra y arriver. Mais voilà, au bout d'un an, franchement, on a quand même des avancées scientifiques, médicales, technologiques extraordinaires. J'ai l'impression que on est toujours en train de grogner parce que ça ne va pas assez vite. Je serais tenté de dire qu'au contraire, ça va très vite. Bien sûr, on est dans une société où on veut tout maintenant. C'est l'instant, c'est l'impatience. Et bien franchement, Je crois que là, on devrait plutôt, si on fera dans quelques années un vrai bilan de cette période, de cette décennie 2020, on se rendra compte que finalement, on a trouvé des solutions assez rapidement et on continuera bien sûr à pouvoir les trouver et les diffuser. C'est un petit peu le message que je voulais vous diffuser aujourd'hui. Oui, je sais, je plombe l'ambiance toujours après Enrique. C'est dommage, mais on devrait faire dans le sens inverse. Je pense que je devrais passer à 11h et toi, tu arrives, Enrique, avec ton vaccin anti-déprime à midi. On va voir si c'est pas dans ce sens-là que ça serait plus judicieux. Mais en tout cas, voilà, je compte sur vous pour avoir, je sais pas, une certaine rigueur et une certaine patience et un certain bon sens, bien évidemment. C'est Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. On va parler de l'actualité scientifique en lien avec le coronavirus. Salut Enrique, à bientôt. Et puis on parlera également de plein d'autres choses parce que il y a des choses qui se passent aussi dans l'espace. Moi j'adore cette information, on l'évoquera tout à l'heure. On a envoyé des bouteilles de Château Pétrus dans la Station Spatiale Internationale. On les a fait revenir sur Terre, on les a goûtées, puis on a dit, oh mais ça va, en fait, elles sont toujours bonnes. On va essayer de comprendre un peu l'intérêt de tout ça, mais c'est pas grave. On verra bien sûr tout ça dans cette émission. Et on parlera également de ce confinement, mais volontaire, de ces 40 Français qui... Non, ils ne sont pas 40, pardon. Ils sont une quinzaine, mais qui, pendant 40 jours, ont décidé de rester enfermés dans une grotte. On verra aussi l'intérêt scientifique de ça. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars. C'est la journée mondiale du théâtre. Bon, bah, très bien. Écoutez, ça a été créé par l'Institut international du théâtre en 1961. Et tous les 27 mars, on se dit... C'est la journée du théâtre, profitons-en, d'autant qu'ils sont fermés en ce moment, mais on continue bien sûr à soutenir tous les artistes et tous les intermittents, bien évidemment. Le 27 mars 1915, c'est la mise en quarantaine de Marie Malon, c'est la première porte-scène de la typhoïde en 1848. Ça, c'est intéressant en Égypte, la première pierre du grand barrage d'Assouan est posée. Et puis aujourd'hui, on a un canal de Suez qui est complètement encombré. Et enfin, les premiers essais de la caravelle, ça date de 1955 et c'était à Toulouse. Naissance à 27 mars de William Conrad Röntgen. Röntgen, c'est un nom quand même qui quelque part nous dit quelque chose. Il est physicien allemand. Il a fait quand même la plus grande partie de sa scolarité aux Pays-Bas. Il est rentré à l'école polytechnique fédérale de Zurich et bien évidemment, c'est lui qui découvre les rayons X. C'est en 1895. Il reçoit le premier prix Nobel de physique en 1901. Il est né donc le 27 mars 1845. Röntgen. Décès de quelqu'un que l'on connaît également le 27 mars 1968, c'est le décès de Youri Gagarine, le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1, c'était en 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique. Gagarine va bien sûr acquérir une vraie notoriété internationale. Il est décoré de nombreuses distinctions, dont celle du héros de l'Union soviétique. Et il a reçu également la médaille de l'ordre de Lénine, les plus hautes distinctions soviétiques de l'époque. La mission Vostok 1, c'est son seul voyage spatial. Il a également été doublure ensuite pour d'autres missions. Et il meurt à 34 ans, donc le 27 mars 1968, lors de l'écrasement de son MiG-15. Et on a quand même continué à conserver ce nom du premier homme dans l'espace, Youri Gagarine. Il a donné notamment un nom à un cratère lunaire et puis on a donné son nom également à un astéroïde. Bien sûr, c'est voilà, la mémoire de Youri Gagarine, décédé aussi le 27 mars. Beaucoup de choses le 27 mars, bien sûr, pour cet éphéméride. Alors, on va commencer à parler des choses un peu plus lourde et puis on finira par des choses un petit peu plus légères dans cette émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez réagir sur le Facebook live, bien sûr, en direct et par SMS exclusivement au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir, bien sûr, en direct, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS. J'ai un œil sur la tablette des SMS, j'ai un œil sur le Facebook live, j'ai un œil sur mes différents articles et puis j'ai un œil sur ce que peut éventuellement faire Mathéo au niveau de la réalisation, mais ça devrait le faire. Je voulais commencer à parler des vaccins. En fait, la situation française, elle est un peu particulière parce qu'on se rend compte, indépendamment de tout ce qui va être approvisionnement, de tout ce qui va être mise en place d'une procédure et d'une logistique assez particulière pour cette période vaccinale, on se rend compte aussi qu'il y a quelque part une méfiance typiquement française vis-à-vis des vaccins. Et il y a un article assez intéressant dans Futura Science qui revient un petit peu sur des affaires qui ont alimenté un petit peu cette méfiance française et qui du coup n'arrange pas la situation actuelle. Le 15 mars dernier, le vaccin AstraZeneca a été suspendu en France après une suspicion de cas de thrombose. Et cette suspension a été rétablie ensuite pour continuer à vacciner contre la Covid-19. Et en fait, cette espèce d'aller-retour de 3 jours et de ces discours un petit peu à la fois ambigus ou contradictoires au plus haut niveau de l'État, ça contribue un petit peu à alimenter cette méfiance envers ce vaccin. Surtout en France, justement parce qu'on se rend compte qu'il y a des réticences envers la vaccination qui sont historiquement assez élevées. Avant l'épidémie de Covid-19, en 2019, un Français sur 3 doutait de la sécurité des vaccins, ce qui représente le plus faible taux parmi presque tous les pays du monde entier. Et il y a 3 affaires qui ont notamment un petit peu alimenté cette méfiance. Et cet article de Futura les cite. Dans les années 90, il y a eu le vaccin contre l'hépatite B. Nous sommes en 94 précisément. Le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Douste-Blazy, lance une vaste campagne de vaccination contre l'hépatite B, ce qui est une maladie due à un virus et qui contamine environ 100 000 personnes par an. Et la vaccination devient obligatoire dans tous les collèges. La population se fait massivement vacciner, bien au-delà de ce qui était prévu au départ, parce qu'on atteint un chiffre de 20 millions de Français vaccinés à l'époque. Mais il y a eu des effets secondaires qui ont été rapidement signalés, notamment une centaine de cas de sclérose en plaques qui ont été signalés en France. Et du coup, en 98, cette vaccination contre l'hépatite B est suspendue, en attendant le résultat d'enquêtes épidémiologiques. Il y a eu une dizaine d'études qui ont été menées. Le problème, c'est que ces études mènent à des résultats un peu contradictoires. C'est-à-dire que les données scientifiques disponibles ne permettent pas de démontrer l'existence d'une association significative entre le risque de voir apparaître des effets secondaires parfois assez dramatiques et ce vaccin contre l'hépatite B. C'est ce que conclut la Commission nationale de pharmacovigilance française en 2011. C'est-à-dire que plus de 15 ans après, on a une étude qui est donc un avis de cette commission nationale, essaye un petit peu de prendre le recul nécessaire pour voir quels peuvent être éventuellement les liens. Et le problème, c'est que finalement, on se rend compte qu'il n'y avait pas de lien. En tout cas, on n'a pas démontré le contraire, pour être beaucoup plus précis. Deuxième exemple, c'est beaucoup plus récemment, en 2008, c'est le vaccin contre le papillomavirus humain. Ça a été commercialisé par notamment Sanofi Pasteur, par GSK, c'est des vaccins contre les papillomavirus humains qui sont à l'origine de 6000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an. Et en 2009, donc 3 ans après le début de cette campagne de vaccination, il y a des neurologues australiens qui rapportent une possible association entre le vaccin et la sclérose en plaques. Et puis il y a également d'autres cas de maladies parfois auto-immunes qui ont été rapportés chez des patients qui ont été vaccinés. Si bien qu'il y a des dizaines de familles qui portent plainte en France, il y a une pétition qui est signée par plusieurs médecins pour demander son moratoire. Résultat, c'est que ça a évidemment un impact significatif sur la vaccination. La couverture vaccinale, elle n'arrête pas de chuter. Ça va jusqu'à 17% chez les jeunes filles de 16 ans. Et il y a de nombreuses études qui viendront pourtant, par la suite, disculper le vaccin. C'est-à-dire qu'on va avoir des études nous dire non, 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 ce n'est pas le vaccin qui est responsable. Le problème, c'est que le mal est fait. C'est qu'il faut du temps pour arriver à avoir ce résultat et ensuite du temps pour pouvoir le communiquer et ensuite du temps pour que cette communication, cette information soit assimilée par les Français. Si bien qu'il y a un véritable frein dans cette vaccination contre le papillomavirus. Ce vaccin reste toujours recommandé en France pour les jeunes filles et les garçons, étant donné que ce virus est sexuellement transmissible, et d'autant que son efficacité est quasi proche de 100%. Troisième exemple, c'est bien sûr, on s'en souvient un peu plus parce qu'on a fait l'analogie avec la Covid-19, c'est le vaccin contre la grippe H1N1, ça date de 2009. On s'en souvient, à l'époque, l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, alerte sur l'apparition d'un nouveau virus grippal chez des patients. Au départ, c'est au Mexique et aux États-Unis. Et on se rend compte que c'est justement un virus transmissible d'homme à homme qui se répand rapidement et qui atteint l'Europe. La ministre de la Santé s'appelait Roselyne Bachelot à l'époque. Elle commande 94 millions de doses à 4 laboratoires. Le coût total, c'est 600 millions d'euros. Et il y a à l'époque, et ça avait fait polémique il y a quelques temps, elle avait commandé et constitué un stock de 22 milliards de masques, on ne se rend même pas compte de ce que ça pouvait être à l'époque. Le problème, c'est que cette grippe tant attendue et tant fatale, finalement, elle se révèle moins virulente que prévu. Et cette campagne de vaccination, elle tourne totalement au fiasco. Et donc, du coup, il y a quelque part une suspicion vis-à-vis de l'OMS qu'on accuse d'avoir créé une espèce de fausse pandémie sous la pression des laboratoires pharmaceutiques. Et puis, il y a eu par la suite, évidemment, parfois quelques cas indésirables. Dernière chose, c'est la vaccination obligatoire en 2018, avec 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Et là aussi, ça fait polémique. Conclusion de tout ça et conclusion de cet article, c'est qu'au final, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que, évidemment, et j'en ai parlé dans cette émission, je crois, début mars, à partir du moment où vous injectez quelque chose dans un corps humain, il y a une réaction. Et dans le cas d'un vaccin, si vous avez une réponse, c'est normal parce que vous allez susciter une réponse immunitaire. Donc, du coup, il faut que ça réagisse, il faut que le corps réagisse, bien évidemment. La difficulté, c'est qu'il faut qu'il réagisse, mais pas trop. Sauf que là, on est sur des cas, certes dramatiques, mais sur un énorme panel de personnes qui ont été vaccinées. D'un point de vue statistique, les chiffres sont très, très, très restreints. Et donc, on est en fait dans une suspicion. Et à partir du moment où on est dans une phase de suspicion, c'est très difficile de pouvoir convaincre à continuer justement à promouvoir ces vaccins, quels qu'ils soient. Et donc, on se retrouve en 2021 avec une phase de vaccination intense. On en parle tous les jours, je veux dire, tout le monde en parle et c'est très bien l'actualité, on voit très bien que c'est ça actuellement. Et ça arrive dans ce contexte depuis une vingtaine d'années en France qui fait que justement on n'a pas su communiquer à temps et on n'a pas su bien communiquer aussi parfois. Et donc cette suspicion est toujours présente. La conclusion que je souhaiterais faire personnellement, moi, de ce genre d'article, c'est que si on prend énormément de recul, je vous ai dit en 2021, c'est bon sens et recul. Si on prend du recul, l'histoire de l'humanité a prouvé l'efficacité des vaccins. On ne va pas revenir sur la liste des vaccins qui ont apporté un bienfait pour l'humanité. Si on prend le recul, on voit très bien ce qu'apportent les vaccins. Et deuxième chose, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a eu, pour les vaccins actuellement disponibles, des phases d'essais et des protocoles qui ont été respectés scrupuleusement. Arrêtons de parler d'une expérimentation à grande échelle. C'est faux. Il faut arrêter d'avoir aussi cette image-là. Évidemment, vous prenez une aspirine, vous prenez un doliprane, ça peut, chez certains, engendrer des complications. Sauf que le nombre de personnes qui ont ces complications sont minimes par rapport à l'étendue d'utilisation de ces médicaments. Pour le vaccin, c'est pareil. Il y aura, quoi qu'il en soit, toujours des effets secondaires chez une petite partie de la population. Et on est en train de se demander, et c'est un petit peu au niveau européen, je crois que cela a été dit, de voir si le bénéfice risque et entre le bénéfice de la santé et le risque à prendre, quel est l'équilibre. Et on sait très bien que, évidemment, la balance penche sur le bénéfice qu'apportent ces vaccins. Donc, essayons, voilà, essayons de raison garder, essayons justement de bien prendre du recul et de comprendre également que les vaccins ont apporté des choses et continueront à nous apporter des choses. Chacun est libre, nous n'avons pas de vaccination obligatoire en France, chacun est libre de décider ce qu'il veut, c'est aussi ça qui est intéressant, mais il décide à partir quand même d'informations de base qu'on lui fournit. Je disais toujours tout à l'heure, nous sommes responsables et donc nous sommes capables, je pense, de prendre les bonnes décisions. Vous écoutez Graphite sur l'antenne de Biotine. On va faire une petite pause musicale et on va continuer à feuilleter l'actualité, la revue de presse de l'actualité scientifique, en parlant de choses, je l'espère, un peu plus légères, je vous le promets. Allez, un petit peu de musique, ça va nous faire du bien, parce qu'on a aussi besoin de ça sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. C'était Deeper avec Willing sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique, à la fois sur le 94.9 sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et bien sûr le Facebook Live de l'émission sur la page Facebook de Graphite, bien évidemment. Concernant toujours cette situation sanitaire un peu compliquée, il y a quelques articles qui commencent à être diffusés diffusée pour essayer de comprendre un peu l'impact de ces différents confinements, à la fois sur notre alimentation et à la fois sur notre, on va dire grosso modo, notre santé mentale. Je vais pas lire en détail parce que je vois que l'heure passe et puis j'aurais essayé aussi de parler de choses un petit peu plus légères. Donc je vais pas lire en détail les deux articles que j'ai sous les yeux. Ce qu'il en ressort, en fait, pas grand-chose, quelque part. Notamment au niveau de l'alimentation, on n'a pas nécessairement ressenti un changement dans les habitudes alimentaires avec un peu de recul, et ça a été analysé sur la première période de confinement. Donc on est sur à peu près mars-mai 2020 et on a fait des études essentiellement, si je ne dis pas de bêtises, en France et au Québec, où il y a eu quelques articles qui montrent quelques variations dans les habitudes alimentaires, mais pas tant que ça, en fait. Alors qu'on avait un petit peu l'impression au départ que les Français commençaient à manger peut-être un peu mieux, ou en tout cas s'étaient remis à faire de la cuisine à l'époque, c'est une mode qui est passée, en fait. Et avec un peu le recul, on n'a pas nécessairement d'informations sur les effets pour savoir s'ils sont plutôt bénéfiques ou négatifs, voire neutres. En tout cas, c'est trop tôt pour le savoir et on en saura un petit peu plus un peu plus tard quand on aura l'analyse des différentes phases de confinement dans différents pays également. Et la deuxième chose, c'est bien sûr l'impact du confinement sur la santé mentale. Il y a une équipe de scientifiques de Bordeaux qui a tenté d'y voir un peu plus clair et qui a donc analysé les conséquences toujours de ce premier confinement sur notre santé mentale. Ils ont mené une étude prospective qui est publiée dans une revue, la revue Globalization on Health. Et en fait, les résultats, quelque part, sont peu surprenants. C'est-à-dire que oui, il y a un impact sur la santé mentale. Le confinement a un vrai impact et ils vont un petit peu plus loin. Alors, ils ont travaillé sur une base de à peu près 12 500 personnes qui ont souhaité participer à cette étude par le biais de remplissage de questionnaires. Donc, on est quand même quelque part là aussi plus sur une analyse d'un ressenti des personnes et sur l'expression de leur ressenti. En tout cas, on se rend compte, on le savait, mais ça commence à être confirmé par les premières études qui apparaissent, que oui, le confinement a un impact bien sûr sur la santé mentale et que cet impact est aussi différent selon la situation personnelle de la personne qui est concernée. Situation en termes de revenus et situation, on va dire, maritale, c'est-à-dire qu'une personne qui est seule aura un impact différent par rapport à une famille, on va dire, et tout dépend de la situation dans laquelle il se trouve financièrement, et aussi tout dépend de l'endroit où il se retrouve confiné. On se souvient très bien de cet exode, on va dire, de personnes habitant dans les grandes villes et notamment la région parisienne, l'exode vers des régions un peu plus rurales entre guillemets, c'est peut-être là aussi parce que il y avait un besoin peut-être d'avoir un peu plus d'espace. Donc tous ces éléments ont été analysés. Pour l'instant, les premières réflexions qu'on peut faire à partir de l'exploitation des résultats montrent qu'il y a bien un impact sur la santé mentale. Quelque part, on s'en doutait, c'est totalement évident. Mais là encore, c'est un petit peu trop tôt pour avoir une véritable analyse. Donc, ces premiers articles qui commencent à arriver, qu'on commence à analyser un peu. Mais évidemment, on reviendra sur ces deux sujets quand on aura un petit peu plus de recul et un petit peu plus de résultats de recherche, si possible, sur une surface du globe un peu plus importante. Alors que là, on est quand même plus sur des analyses, pour l'instant, un peu franco-françaises. Mais en tout cas, ça nous donne des premières pistes intéressantes. Dernière chose en ce qui concerne cette situation sanitaire, je reviens sur le vaccin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a peu d'informations pour l'instant sur la vaccination chez les femmes enceintes. Et il n'y a pas d'informations disponibles parce qu'elles n'ont pas été incluses dans les essais cliniques des différents vaccins anti-Covid. Mais évidemment, elles se font vacciner et on a ce cas qui montre que l'une de ces personnes, de ces femmes enceintes, a reçu sa première dose du vaccin Moderna seulement 3 semaines avant de donner naissance à son bébé de façon totalement naturelle. Et juste après la naissance de la petite fille, les médecins ont prélevé un échantillon de sang via le cordon ombilical dans des conditions stériles. Et il y a donc une publication sur un site, le site Medrevix, qui a été diffusé. Et c'est le premier cas connu, un cas qui montre que, en fait, ce bébé a des anticorps anti-Covid, parce que les médecins voulaient savoir justement si le nouveau-né possédait ces anticorps dirigés justement contre ce virus. Et on peut se dire que ça serait potentiellement issu du vaccin. La réponse est oui. On s'est rendu compte donc que le sang du bébé contenait bien justement cette réponse immunitaire nécessaire pour pouvoir attaquer ce Covid. Les anticorps vaccinaux sont donc capables de passer la barrière que représente le placenta après seulement une dose de vaccin et ne semblent pas mettre en danger la vie du bébé, en tout cas dans ce cas précis, dans ce premier cas précis. Bien évidemment, il y a d'autres recherches qui seront nécessaires pour confirmer ça, bien évidemment. Alors, difficile de dire si le bébé est protégé, lui, contre le virus. En tout cas, il a les anticorps, et ces anticorps réduisent justement le risque d'infection. Reste à savoir chez ce bébé combien de temps ces anticorps vont persister. C'est une question encore en suspens que l'on n'a pas précisément, donc on aura un peu d'informations là encore avec du recul. Et depuis, la mère a reçu la seconde injection du vaccin Moderna durant, après l'accouchement. Ça se passe en Floride et donc c'est le premier cas de ce bébé né d'une mère vaccinée qui a donc des anticorps anti-Covid dans son sang. Voilà un petit peu l'état actuel de la recherche scientifique et médicale dans la situation sanitaire actuelle. Vous l'avez compris, on est en train d'apprendre encore de plus en plus de choses. C'est ce que je vous disais dans l'édito du départ. Ça avance, la science avance et nous donne des informations tous les jours. Et donc, on va pouvoir ensuite réajuster notre stratégie vaccinale, la recherche de certaines thérapies et en apprendre un petit peu plus sur la propagation, la contagiosité de ce virus. C'est un petit peu voilà, la conclusion de ces différents articles. Allez, toujours sur Robiotine, sur l'antenne de Graphite, on va un petit peu se faire plaisir et on va partir dans l'espace. Alors, il y a plusieurs choses dans l'espace qui se passent. On a un peu l'impression que c'est dans l'espace où il faut aller pour boire des bonnes bouteilles de vin. C'est cet article, et on en a parlé un petit peu dans les médias cette semaine. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être entendu. C'est ce grand cru de Château Pétrus. Un très grand vin, coté à peu près 5000 euros. Ce qui est quand même pas rien. On en a envoyé donc des bouteilles au niveau de la Station Spatiale Internationale, 12 bouteilles précisément. On a aussi envoyé des sarments de vigne, de Merlot et de Cabernet Sauvignon, et on les a envoyés à peu près une bonne année dans la Station Spatiale Internationale. C'est ensuite des recherches qui ont été menées par l'Institut des sciences de la vigne et du vin. C'est l'Université de Bordeaux qui est derrière, bien évidemment. Il y a aussi une start-up européenne qui s'appelle Space Cargo Limited qui est impliquée dans ce projet. Tout l'enjeu de cette mission, c'était de vérifier si l'environnement spatial, c'est-à-dire les radiations, c'est-à-dire la microgravité, ça pouvait modifier les caractéristiques du vin et surtout si la pesanteur pouvait rendre la vigne plus résistante. Et donc, Nicolas Gaume, qui est le président de cette start-up européenne, explique notre approche est de penser que les plantes qui auront pu résister à l'absence de gravité seront plus résilientes, plus en capacité de réaction à des stress comme le changement climatique. Et donc, il y a une quinzaine de chercheurs qui sont impliqués dans ce programme privé de recherche en partenariat en plus avec l'Université d'Erlangen en Allemagne. Il y a même le CNES qui est impliqué, le Centre National d'Études Spatiales. Et on a fait revenir donc ces bouteilles mi-janvier à bord du Cargo Dragon de la société SpaceX. Il y a aussi ces sarments qu'on a fait revenir. On les a replantés dans les serres d'un pépiniériste viticole bordelais. Et on a aussi l'autre moitié travaillant en laboratoire pour essayer de faire des analyses pardon, et des comparaisons avec des sarments qui sont, eux, restés sur Terre. Il y a eu un test olfactif, visuel, dégustatif, qui a été conduit il y a quelques jours, c'était même le début du mois, pour essayer d'obtenir une première photographie un petit peu de cette odyssée spatiale du vin. Résultat, il y a eu deux bouteilles de Petrus qui ont été présentées à l'aveugle à un panel de 12 personnes, à la fois des amateurs et des experts. Et le verdict est unanime, c'est-à-dire que le vin de l'espace, entre guillemets, a été très bien évalué sensoriellement. C'est ce que résume le directeur de l'unité de recherche, le directeur de recherche œnologie dans cet institut de la vigne et du vin. Il y en a quand même qui ont des beaux métiers, je trouve. Directeur de recherche œnologie, ça peut être intéressant. En fait, il y a des différences qui ont été notées sur la couleur, parfois sur des nuances d'odeur et de goût, mais d'une façon générale, le vin est très bon. Et on se dit même que le vin est bon, aussi bon que celui qui est resté sur Terre, voire mieux. C'est-à-dire qu'on a vraiment conservé au moins la qualité gustative du vin. On a également, comme je vous l'ai dit, fait des recherches sur les sarments, parce que l'idée de soumettre un végétal dans des conditions un peu stressantes, entre guillemets, je vous rappelle, il y a des radiations, il y a la microgravité, donc pas habitué, serment de vigne, là, il est tranquille dans sa région bordelaise, on l'envoie à la Station Spatiale Internationale, il est obligé de réagir par rapport à un contexte totalement inédit. Il dit, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me fait faire? Et donc, les cellules végétales vont essayer de pouvoir réagir à cette situation un peu particulière, et notamment vis-à-vis de la gravité, qui est un paramètre central de la vie, et justement, la gravité reste la même sur Terre. Et donc, du coup, là, on agit fortement sur ce paramètre qui va un petit peu exposer donc ces plantes à cette absence de gravité, et on se rend compte que ça pourrait accélérer des évolutions naturelles. Étant donné qu'on va les mettre dans une situation un peu stressante, ce qui peut se faire sur Terre d'une façon lente va être un petit peu accéléré, et on va pouvoir essayer d'étudier ça. En tout cas, on se rend compte que ces sarments qui ont été à la Station Spatiale Internationale se sont bien développés, une très grande majorité d'entre eux se sont bien développés, ça veut dire qu'ils n'ont pas subi, enfin ils ont subi ces conditions, mais ils se sont bien tirés entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des parades pour pouvoir justement être réactifs et être toujours performants, mais il faut apprendre un petit peu, enfin prendre son temps, et en tout cas attendre 3 ans pour savoir si certaines plantes ont subi des modifications épigénétiques. L'attente finale, c'est d'essayer un petit peu de les challenger, ces plantes, de regarder si elles ont acquis une meilleure tolérance par rapport à des agents pathogènes. Ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est comment ces plantes peuvent réagir par rapport à des situations imprévues, si bien qu'on pourrait essayer d'apporter des solutions face au mildiou, par exemple, face à un contexte de changement climatique assez accéléré, et donc, du coup, de pouvoir essayer de trouver des parades, bien évidemment, pour conserver cette qualité gustative. Prochaine expérience, c'est tester la fermentation en apesanteur. Donc peut-être de la bière, allez savoir, on verra ça, on en parlera peut-être avec PJ une fois. Il y aura peut-être l'idée voilà, d'aller dans la Station Spatiale Internationale. Je ne sais pas si Thomas Pesquet va partir avec des bouteilles de champagne pour faire des expériences dans la Station Spatiale Internationale. On verra bien, on suivra ça, bien évidemment. Mais c'est toujours intéressant, vu le contexte actuel assez particulier que l'on vit, d'avoir des petites informations comme ça, où on se dit, tiens, on a envoyé du Château Petrus dans la Station Spatiale Internationale, on l'a fait revenir sur Terre et on l'a goûté. On a dit, oui, c'est vrai, c'est pas mauvais. À consommer, bien évidemment, avec modération. Le CSA nous écoute. Allez, un petit peu de musique. Et on continue de feuilleter l'actualité scientifique, toujours dans l'espace, mais aussi sur Terre, avec ce train ultra rapide, 620 km/h, record battu en Chine. À tout de suite. With Megan, so incredibly quickly. Dry Cleaning sur l'antenne de Graphite avec le titre Magic of Meghan. Meghan Markle, peut-être ? Mon Dieu, mais ça y est, on parle de Meghan Markle sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 Bande FM, graphite.net sur Internet en direct ou en différé grâce au podcast, bien évidemment. Et vous nous suivez grâce à Mathéo sur le Facebook Live de l'émission avec la caméra dans le studio et ce qui vous permet également de réagir directement sur la page Facebook de Graphite où vous nous envoyez aussi des SMS si vous le souhaitez au 06 95 065 026. Je rappelle dans les programmes de Graphite que ça a déjà démarré cette semaine si je dis pas de bêtises, mais à partir de mardi prochain à 16h vous retrouvez Mathéo avec les ondes solidaires bien sûr sur l'antenne de Graphite en direct tous les jours, du mardi au vendredi, 16h-17h. Je ne peux que vous inciter à suivre, bien sûr, cette émission en direct avec l'ami Mathéo, bien évidemment. On continue de feuilleter, comme ça, la revue de presse de l'actualité scientifique, avec toujours l'espace, parce que on s'ennuie tellement sur Terre, c'est tellement anxiogène et pénible ce qu'on est en train de vivre sur Terre, qu'on va un petit peu avoir la tête dans les étoiles. Donc, on part sur la Station Spatiale Internationale et on part aussi sur Mars, parce que quand même, depuis quelques semaine, et je vous l'ai dit, cette décennie 2020, ça sera l'actualité de ce qui se passe sur la Lune, mais aussi sur Mars. Et on sait donc que Mars, on a envoyé un rover avec une caméra, on a envoyé pas mal d'instruments scientifiques. On a, et on l'avait diffusé dans cette émission début mars, je crois, écouté les premiers sons qu'il y a sur Mars. Il y a donc toujours une phase de test de ces instruments, et notamment de cette caméra Supercam, qui est l'un des principaux instruments à bord de Perseverance, qui a été mise en service avec succès. Donc c'est une caméra qui est à la tête d'un mât qu'on a posé sur le rover et donc il y a actuellement une série de tests destinés à vérifier l'état de fonctionnement de tous les systèmes qu'embarque justement Supercam, notamment les trois faisceaux laser qui sont produits par Supercam avec l'idée de recueillir bien sûr des données et des informations sur Mars. Le microphone également a été installé sur cet instrument et il a donc été testé avec succès bien sûr parce que les sons que l'on reçoit sont d'une qualité remarquable, c'est ce qu'explique Naomi Murdoch, enseignante-chercheure à l'Institut de Sciences Supareo. C'est un microphone qui a acquis donc les premiers sons de la planète Mars qui jusqu'à maintenant était totalement inconnu. On ne savait pas ce qu'on écoutait sur Mars, à part Graphite bien sûr. Et bien maintenant on le sait, il y a donc un vent martien, il y a aussi des sons associés aux impacts laser sur la roche martienne qui sont entendus avec une très belle qualité sonore, presque comme si nous étions sur place, la technologie est quand même assez formidable. Et donc, on est un petit peu dans ce qu'on appelle en expérimentation scientifique dans une phase de recette. On est en train de tester, en train d'analyser un petit peu cette phase de test pour voir si tout va bien. Eh bien, ça va s'étendre, cette phase de test, sur quand même 3 mois, voire plus de 3 mois. Donc, on est toujours dans cette phase-là. Les données transmises par l'instrument sont envoyées aux équipes opérationnelles du FOX. C'est le French Operations Center of Science and Exploration. J'adore mon accent anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe en France, au Centre Spatial de Toulouse. C'est à Toulouse qu'on recueille toutes ces données-là et qu'on les analyse. Et justement, on montre un petit peu toutes les fonctions. On se rend compte qu'elles sont opérationnelles. Et on se rend compte justement que cet instrument Supercam est en bonne santé et c'est tant mieux. Donc il y a des tests de calibration, de fonctionnement qui vont permettre justement de pouvoir analyser les roches sur Mars, analyser les sols, analyser aussi l'atmosphère. Et pour l'instant, ces tests sont donc totalement excellents. Un premier bilan de santé excellent, c'est ce que confirme justement le responsable scientifique de cette mission. Et après cette première phase de vérification un peu longue, dans le sens où on est totalement impatient d'avoir des informations sur Mars, on va pouvoir poursuivre la vérification des fonctions de persévérance, également de l'hélicoptère qui est là-bas, Ingenuity, et on continue ça encore pendant 2 mois, donc ça va nous mener jusqu'à l'été à peu près, et au terme de ces opérations de vérification, eh bien, on pourra véritablement commencer la mission scientifique de persévérance, et c'est tant mieux, on suivra ça, mais tout se passe bien, et c'est très bien, parce que c'est très prometteur, bien évidemment. Et si on revient un petit peu sur Terre, on va partir en Chine. C'était annoncé en 2021. Eh bien, le calendrier est respecté parce qu'on a réussi à réaliser dernièrement les premières glissades sur rail de ce prototype de locomotive. Sous le regard des autorités, sous le regard aussi de la Société des chemins de fer chinois, c'est cet nouveau prototype de locomotive qui est... argenté et noir, nous dit-on, a été testé dans le sud-ouest de la Chine sur une ligne de 165 mètres. Et en fait, ce train, il a une particularité. Il ne roule pas sur des rails parce qu'il flotte, entre guillemets, au-dessus de la voie. C'est le principe de la sustentation magnétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les TGV que nous connaissons en France roule sur des rails, donc il y a bien un contact avec un rail, et ce qui peut, ce qui entraîne bien évidemment des frottements, donc parfois un ralentissement. Et là, eh bien, on va, grâce à la sustentation magnétique, faire flotter au-dessus du rail cette locomotive qui pourra aller beaucoup plus vite. La vitesse peut décoller et atteindre, en théorie, 620 km/h, ce qui est énorme parce que, justement, on arrive à éliminer tous ces frottements. Et 620 km/h, c'est le chiffre que annonce le porte-parole de l'université Southwest Jiaotong en Chine. Selon lui, ce train très économe en énergie pourrait être propulsé d'une seule main, et ce train fait 12 tonnes. Donc tu le pousses un peu de la main et puis comme ça il avance. Bon, c'est quand même un peu plus compliqué que ça évidemment, mais ça vous voyez, c'est toujours un petit peu les communiqués de presse qui font que on nous dit parfois des choses un peu bizarres. En tout cas, cette mission, ce prototype Maglev se rapproche d'un autre projet qu'on avait déjà évoqué dans cette émission. Ça date peut-être de 2019, je ne me rappelle plus, mais c'est ce projet Hyperloop, c'est-à-dire ces espèces de tubes un peu souterrains, et on mettrait des grosses gélules, entre guillemets, on sera à l'intérieur, et il n'y a pas de frottement non plus, et donc du coup la gélule, elle peut aller très vite dans ce tube, tellement vite qu'on pourrait atteindre des vitesses de plus de 1000 km/h dans le cadre du projet Hyperloop. 1000 km/h, c'est très simple, 1000 km en une heure, c'est-à-dire que vous faites un Brest-Nice en une heure, en étant dans une gélule. Bon, dit comme ça, c'est un peu particulier, mais technologiquement, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, on est vraiment sur des tests de prototypes qui montrent des résultats véritablement prometteurs. Les autorités chinoises, en ce qui concerne le projet Maglev, envisagent déjà de déployer rapidement une ligne dédiée pouvant relier une liaison entre Guangzhou et Hong Kong en moins de 20 minutes, ce qui serait quand même assez faramineux vu la distance qui éloigne ces deux villes. Alors, bien sûr, c'est pas le premier prototype du genre, hein, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà évoqué il y a quelques années. En 2003, la Chine avait déjà mis au point un train à grande vitesse qui assurait la liaison entre le centre-ville et l'aéroport de Pudong, et il s'agissait à l'époque d'une technologie allemande. Donc, on est vraiment en train d'assister à une prouesse technologique assez importante, qui fait que notre bon vieux TGV risque d'être assez rapidement dépassé. Et il va falloir suivre ça, cette technologie nouvelle qui permet justement d'avoir un train qui va aller très vite entre deux villes avec un minimum aussi de maintenance. C'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, qui dit moins de maintenance, dit moins de coûts. Et donc, derrière, il y a toujours une affaire d'argent. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Allez, on va peut-être terminer avec cette émission, parce que je vois qu'il est déjà presque 12h54 sur l'antenne de Graphite, avec ce confinement. Mais ce confinement particulier, il y a 15 femmes et hommes, ils ont entre 27 et 50 ans, ils vont vivre pendant 40 jours dans une grotte en Ariège, sans notion du temps. C'est une expérience à visée scientifique. Quel est l'objectif dans cette période de confinement répétitif ? Eh bien, c'est d'étudier les capacités d'adaptation de l'être humain à la perte de repères spatio-temporels. Une question soulevée notamment avec la crise sanitaire, c'est ce qu'explique Christian Clos, le chef de mission. Dans un contexte extrême, avec un nouveau mode de vie, nous ne savions visiblement pas bien en tant que groupe comment répondre aux impacts provoqués par ces changements. C'est le constat qu'il fait en septembre 2020 et il va donc faire naître ce projet qui s'appelle Deep Time, donc Time le temps, Deep profondeur. Il n'y a pas de montre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de lumière naturelle. Et donc, ce groupe de 15 personnes, 7 hommes, 7 femmes et Christian Clos lui-même, ils doivent s'habituer aux 12 degrés qu'il y a dans cette grotte de Lombrive. 95% d'humidité. Ouais, c'est quand même pas génial, hein, finalement, le contexte où ils vont vivre. Mais bon, ils l'ont choisi. Ils vont générer leur électricité par un système de pédalo. Ils vont puiser l'eau dont ils ont besoin à 45 mètres de profondeur. Ils seront munis aussi de capteurs qui vont permettre à une dizaine de scientifiques de suivre depuis la surface un petit peu les impacts qu'il peut y avoir. C'est une expérience qui est une première mondiale. C'est ce qu'explique le professeur Étienne Cochelin, qui est le directeur du laboratoire de neurosciences cognitives à l'ENS. Jusqu'à maintenant, toutes les missions de ce type avaient en fait pour objectif l'étude des rythmes physiologiques du corps. Mais en fait, on n'avait jamais étudié l'impact de ce type de rupture, par rapport au temps notamment, sur les fonctions cognitives et émotionnelles de l'être humain. Et donc ces 14 volontaires, ils sont un petit peu variés aussi sur leur catégorie, leur profil socio-professionnel. Il y a une joaillière, il y a un médecin anesthésiste, il y a un agent de sécurité également, entre autres. Ils sont originaires des quatre coins de la France, ils sont issus de la société civile et ils participent bénévolement. Il n'y a aucune indemnisation. Et ils se sont donc enfermés, alors je crois que c'est il y a une quinzaine de jours, il me semble. On a pu suivre ça, ce qui m'avait un peu surpris en direct aux 20h, parce qu'ils ont eu là, ils sont bons aussi au niveau de la communication. Ils se sont dit, mais tiens, pour qu'on parle de nous, on va peut-être s'enfermer à 20h précises. Ils ont eu raison, parce que du coup, il y a eu des caméras qui a vu un petit peu cet enfermement volontaire. Mais en tout cas, derrière, il y a bien toujours. C'est une expérience scientifique en direct que nous sommes en train de vivre et que l'on va pouvoir justement suivre en termes de ce qui va être intéressant. C'est toujours aussi le temps que prend la science pour pouvoir fournir des résultats, apporter des analyses, des interprétations également. Donc on va pouvoir suivre ça en direct. Ça a donc démarré mi-mars à peu près, je pense. Et ils vont donc être enfermés pendant 40 jours. Après tout, pourquoi pas ? Peut-être faire du bien, en fait, s'ils s'entendent bien. Apparemment, ils ne se connaissent pas, donc voilà. C'est un genre de love story, hein, 20 ans après le début de cette télé-réalité, un genre de love story, mais là, totalement volontaire et scientifique. Donc, ça peut être intéressant. On suivra, bien sûr, cette expérience. Par la suite, voilà en gros ce que je pouvais vous dire aujourd'hui au niveau de l'actualité scientifique. On terminera juste parce qu'il me reste à peu près une minute pour vous envoyer encore dans l'espace. Et on va terminer avec cette information qui montre qu'il y a des nouvelles espèces de bactéries qui ont été découvertes dans la Station Spatiale Internationale. Alors attention, ce n'est pas des formes de vie extraterrestres, hein. Attention, mais c'est bien une nouvelle espèce de bactérie qui a été isolée de plusieurs prélèvements qui ont été faits aux quatre coins de la station. Et ça date déjà de 2015-2016. En fait, ils ont fait des analyses un petit peu partout dans la Station Spatiale Internationale et ils ont cru au départ avoir isolé trois espèces différentes de bactéries. Au final, on se rend compte que ces souches sont identiques à 100%, donc c'est une seule et même espèce qui s'appelle Methylobacterium hajmalii. Ce qui est intéressant, c'est que cette bactérie, elle est capable d'utiliser le méthanol et la méthylamine comme source unique de carbone. Et on la trouve sur Terre, hein, cette espèce de bactérie, dans l'air, dans le sol, dans le sédiment, mais aussi sur les plantes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une bactérie qui intéresse les scientifiques, parce qu'elles vont vivre de façon libre ou alors totalement intégrée dans les tissus des végétaux. Et leur métabolisme est particulièrement utile à la plante. Donc c'est une bactérie bienveillante, entre guillemets. Il y a une espèce de symbiose qui se fait entre la plante et cette bactérie, ce qui permet justement au végétal de mieux résister à l'attaque de certains pathogènes. Et donc, le fait de découvrir que cette bactérie peut vivre dans des conditions assez particulières, comme des bouteilles de Château Pétrus dans la Station Spatiale Internationale, va nous permettre également sur Terre de pouvoir essayer de trouver des réponses face à justement certaines attaques pathogènes sur certaines plantes. Donc on est toujours dans le cas où l'espace nous apporte toujours aussi un peu d'informations sur ce qui se passe sur Terre, et c'est tant mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée parce que c'est bientôt 13h. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique. Prenez soin de vous, soyez fidèles. Dans un instant, bien sûr, la suite de nos programmes. Bonne journée. Merci Mathéo pour la vidéo. À bientôt.